Il est 23h sur France Musique. Nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale.
Bonsoir et bienvenue dans la coda du feuilleton qui s'est déroulée cette semaine sur France Musique, miniature après miniature. Les cinq moments de Entre nous, une création de la compositrice Suiha Yoshida.
Yoshida Suiha desu.
Je suis Suiha Yoshida, sakyokuka desu. Je suis compositrice. Paris ni sunde imasu. Je vis à Paris.
Elle a 30 ans, elle a fait son premier apprentissage de musicienne au Japon et referme cette année un master de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Grâce à une académie de composition, sa route a croisé celle de la jeune tubiste Fanny Métayer, très engagée dans la création et l'improvisation. Musicienne débordante d'énergie, Fanny a formé en 2022 un duo avec l'altiste Maëlle Desbrosses, musicienne qui cultive elle aussi les chemins de traverse et dont on a découvert récemment les talents d'improvisatrice dans À l'improviste. Leur duo s'appelle Météore, joli nom pour une constellation singulière.
Moi, j'avais jamais entendu ce que ça donnait, juste un alto et un tuba, tout seul, ensemble. Ce qui paraissait assez singulier était finalement assez évident. Donc, séduction immédiate. Et puis, au-delà de la sonorité du duo, c'était aussi la façon de travailler ensemble, la même façon de penser la musique. L'efficacité dans le travail aussi, c'est quand même assez agréable. On a des cerveaux qui fonctionnent un petit peu pareil, des sensibilités à la musique un petit peu similaires. Donc ça aide beaucoup et en fait ça crée aussi un son assez rapidement. Donc c'est agréable.
Oui, parce qu'on a une sensibilité musicale commune et une même recherche aussi, je dirais, sur les timbres de l'instrument. Timbre qui finalement se marie bien puisqu'on a un ambitus très large dans les deux. Et un timbre quand même toujours assez chaud et rond. On peut aller dans les extrêmes sans que ça, enfin, que ça reste toujours doux et intéressant, riche en harmonique.
La 2 était mieux, là. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait un mini aller-retour. Je crois que la 2 était très très précise.
Alors, vers quel compositeur et compositrice vous vous êtes tournée en premier lieu pour constituer un répertoire pour Météore?
Oui, alors on a voulu... parce que je pense que c'était la manière la plus évidente d'aborder l'improvisation, commander des pièces à des musiciens, musiciennes qu'on apprécie dans le monde du jazz, même si c'est jamais du jazz très traditionnel. Donc on a demandé à Marc Ducret, Sarah Murcia, Elodie Pasquier, Dominique Pifarelli s'est proposé aussi, et également une pièce de Bruno Ducret. Et ensuite, on s'est dit que ce serait pas mal aussi, finalement, d'avoir un volet plus contemporain, parce que c'est une musique qu'on adore travailler et qu'on adore jouer. Voilà.
Moi, j'ai tout mis dedans.
Alors, comment s'est faite la rencontre avec Suiha?
Moi, en premier lieu, en 2021 peut-être, j'ai joué avec l'ensemble intercontemporain pour la sortie d'Académie Ulysse, lors de laquelle elle était étudiante. À l'époque, elle était encore avec Daniel D'Adamou à Strasbourg. Et j'ai beaucoup aimé sa pièce dans les 5 ou 6 étudiants académiciens, académiciennes de cette semaine-là. C'est celle que j'avais préférée, je pense. Et c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui a un parcours un tout petit peu différent que les contacts premiers directs qu'on a autour de nous. Voilà. Du coup, on a pensé à elle.
Ça s'est fait.
J'ai proposé à Maëlle, ça lui a plu.
Parce que, justement, il y a quand même dans ces pièces des moments assez rythmiques, des esthétiques dans lesquelles on se retrouvait toutes les deux. Ouais.
Pour la jeune Suiha Yoshida, l'écriture d'une page nouvelle pour le duo Météore a été un vrai défi du fait des forces en présence. Face à face, en effet, deux instruments que beaucoup de choses opposent ou séparent, la facture instrumentale, mais aussi les modes de production du son et les registres. Qu'à cela ne tienne, la compositrice s'est lancée. Elle savait qu'elle pouvait compter sur les suggestions des deux musiciennes. Entre nous est du sur-mesure.
Bah, comme c'est deux instruments très éloignés.
Oui.
Mais quand je suis allée au concert de elle, quand même, ça marche hyper, super bien. Il y a plein de possibilités.
Oui.
De chercher un autre timbre, comme le registre est très éloigné, on peut combiner, oui, un peu différemment que l'ensemble ordinaire.
Alors, je crois savoir que Fanny, donc la tubiste du duo, elle t'a donné plein de modes de jeu, elle t'a montré plein de choses et que tu allais te servir dans tous ces modes de jeu-là.
D'abord, elle m'a envoyé tous les modes de jeu qu'elle a déjà enregistrés. Après, c'était juste des enregistrements et donc il n'y a pas de vidéo. Donc, j'ai envoyé des messages. Est-ce qu'on peut se voir pour préciser des modes de jeu et comment tu veux vraiment créer ce timbre-là? Pour moi, mon style de musique, c'est toujours être organique. C'est pourquoi je pense qu'il est intéressant que la musique elle-même soit toujours en mouvement et vivre de la même manière que le mécanisme du son. Il y a des battements de vibration, de la vibration, et donc j'aime bien de mettre des phrases toujours vivantes. Et donc j'aime bien mettre beaucoup de notes dans ma musique.
Mesure 63, on n'a pas joué exactement ce qu'il y avait écrit, mais après c'est un peu subjectif.
Dans le titre des pièces, on est plutôt dans un univers de vie quotidienne, de dialogue entre amis. Est-ce que je me trompe?
Non, en fait, comme on s'est dit que c'est des deux instruments très éloignés et les musiciennes sont fortes en improvisation. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas de créer un dialogue comme une conversation entre les deux instruments, entre nous.
Nous découvrons ce soir, dans la continuité, les cinq moments de cette discussion entre Fanny Métayer et Maëlle Desbros, les cinq moments de « Entre nous » imaginés par Suiha Yoshida et créés sans public dans la concentration du studio d'enregistrement le 16 décembre dernier à la mise en circuit d'Alfortville par le duo Météor. Voici les titres des pièces. Premier tableau « puis « Qu'est-ce que je t'ai dit ?»« Bousculé »,« Tasse fumante » et « Dans les petits riens ».
Thank you.
Thank you.
Le duo Météor, Maël Desbros à l'alto, Fanny Métayer au tuba, interprète de la musique de Suiha Yoshida, les cinq tableaux de Entre nous, une musique instrumentale de A à Z, mais qui a une relation forte au langage, à la parole, même si c'est une musique sans parole. De ces cinq miniatures, je disais tout à l'heure qu'elles ont été un défi pour la compositrice. Le défi était présent aussi côté interprétation et jeu, car l'écriture de Suiha Yoshida est dense, très articulée et rythmiquement complexe. Le témoignage des deux musiciennes.
Alors moi, ce qui m'a challengé plus que des nouvelles choses, c'était l'enchaînement de toutes ces choses-là.
Ouais, ouais. Donc c'est très rapide.
Oui, en fait, c'est ça. C'est l'enchaînement de, par exemple, un Piz Bartok avec tout d'un coup une harmonique, puis des pizzes derrière le chevalet, tout ça très très rapide et avec cette précision rythmique dont je parlais juste avant. C'était davantage ça avec les bonnes nuances et de l'énergie et de la musique. C'est qu'on a cherché au bout d'un moment à quand même y mettre voilà, du plaisir, de la sensibilité. Et c'était ça qui était beaucoup plus challengeant que les modes de jeu en eux-mêmes.
Ouais, je pense que c'est un travail qui n'est pas fini, pour moi en tout cas, et même à deux. Dans les partitions, les œuvres un peu plus jazz improvisées, on joue plus sur les registres. Et là, c'est vrai que Suiha nous a un peu forcé à jouer vraiment ensemble, et même dans les hauteurs. Et donc pour moi, ça c'était un peu délicat de s'adapter au niveau de la dynamique. Et puis sinon, comme a dit Maëlle, l'enchaînement des techniques. Et en vrai, je lui avais fourni un catalogue que j'ai enregistré au préalable pour les compositeurs et compositrices, donc elle savait à peu près ce que je savais faire. Il y a des choses que j'ai demandé à modifier un tout petit peu parce que c'était vraiment compliqué dans l'enchaînement, mais pas finalement, pas tant que ça.
J'ai pas eu le temps de digérer ça. En plus, j'ai fait n'importe quoi.
En peu de temps, à peine 2 ans, le duo Météor a déjà un beau répertoire à son actif et sur 2 versants, le versant jazz et le versant musique contemporaine. Les musiciennes ont en projet une commande à Guilherme de Almeida, jeune musicien rencontré au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elles envisagent aussi de composer elles-mêmes pour le duo et d'ouvrir le duo Météor à des musiciens et musiciennes invités. Prise de son de cette page de Suiha Yoshida, Christophe Michou, montage Amandine Grevaux-Fréchou, direction artistique Elsa Biston, coordination Enzo Barsottini.
France Musique. Création mondiale l'intégrale, Anne Montaron.
Le moment est venu d'en apprendre un peu plus sur le parcours de Suiha Yoshida, installée en France depuis 5 ans seulement. Pour réaliser cet entretien, la jeune compositrice a dû braver sa timidité naturelle et surmonter surtout les difficultés de la langue. Étant incapable moi-même d'échanger en japonais, je suis très reconnaissante à Suiha pour ses efforts. Tu es venue à la musique par le piano, je crois?
Oui.
Ouais. C'était au Japon?
Oui, que j'ai appris... Depuis que j'avais 5 ans, 5-6 ans.
Tu as grandi dans un univers musical? Tes parents écoutaient de la musique?
Oui, mais ils n'ont pas été formés. Plutôt la musique pop.
Et alors, comment est-ce que tu es venue à la musique occidentale?
Tout d'abord, quand j'ai écouté le son de piano avant l'école primaire, des amis ont joué du piano électrique. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est intéressant, ce instrument-là. Et donc, j'ai demandé à mes parents d'apprendre le piano. Et comme ça, j'ai découvert la musique classique.
Et puis, la musique contemporaine, comment est-ce que tu l'as découverte?
C'est quand j'étais lycéenne, je crois. Tout d'abord, je voulais devenir un pianiste. Mais au fur et à mesure, quand je suis allée au concert de récital de piano, j'ai écouté la première fois une pièce de Debussy. Ça m'a vraiment touchée. C'était la pièce L'île joyeuse. Et donc, c'était la première fois que je me demandais comment le compositeur a composé.
Ah, tu t'es posé cette question.
Et donc, j'ai intérêt plutôt devenir compositrice.
Ouais.
Et donc, à partir de là, j'ai commencé à étudier du solfège, etc. J'ai demandé à mon professeur de piano, est-ce que vous connaissez un professeur de composition? Après, je prends des cours individuels.
D'accord.
Chez lui.
Et ensuite, tu es arrivée, tu as choisi la France. Pourquoi tu as choisi la France?
Oui, et donc la deuxième surprise, c'était la pièce de Griset. C'était Vortex.
Vortex Temporum, oui. Que tu as découverte au Japon.
Au Japon, oui, c'était magnifique.
Ça t'a bouleversée?
Oui, c'est ça.
Tu l'as entendu en enregistrement ou au concert?
Je pense que c'était d'abord l'enregistrement, mais ensuite j'ai eu de la chance d'écouter au concert. Justement, vraiment, le pianiste bouge dans la scène, sur la scène.
Oui.
Et c'était magnifique.
Oui.
Et j'ai écouté là, vraiment, comment dire, j'ai découvert la notion de la musique spectrale. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller étudier en France.
Mmh. Ensuite, tu as quitté Strasbourg pour Paris. Et maintenant, tu es étudiante dans la classe de Frédéric Durieux au Conservatoire de Paris.
Oui.
Depuis un an. Hein,
oui,
à peu près.
Ça. Déjà, j'ai suivi le cours d'analyse, le cours d'harmonisation clavier, par exemple, pour apprendre plus de combinaisons. Et surtout, avec Monsieur Durieux, j'apprends la notation très précisément en héritant la notation traditionnelle pour être plus clair pour les instrumentistes. Et maintenant, je tente de quand même écrire une musique plus aérée, en gardant toujours les idées de la vibration.
Oui, la vibration et la vie que tu aimes dans la musique. Vie.
Tu joues encore du piano? Oui, un petit peu.
Un petit peu. Et est-ce que tu composes au piano? Est-ce que tu te sers du piano pour composer?
Non, je chante plutôt au lieu de jouer. Juste pour vérifier les hauteurs, j'essaie d'utiliser le piano. Mais normalement, je chante. Mais pour les accords précis, j'utilise parfois des logiciels de l'IRCAM.
D'accord.
Par exemple, Open Music, Max.
Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta perception de la musique, la rencontre avec l'électroacoustique et avec l'écriture sur ordinateur? Et
je pense que la musique électroacoustique me permet de créer une musique vraiment que je pense dans ma tête. Après, j'ai découvert la musique mixte et la combinaison des instruments et l'électronique. C'est un mariage super.
Cette émission Portrait a été réalisée par Olivier Guérin avec Jean-Benoît Tétu et Jeanne Agrapard. Dimanche prochain, nous serons en compagnie du compositeur taïwanais Wei Chelin et du trio 20 degrés dans le noir à la faveur de la rediffusion de Bloop, une suite pour accordéon, flûte et violoncelle. Début du feuilleton demain lundi 13h23 sur France Musique. 23h30, vous êtes dans le carrefour de la création, dernier épisode avec l'expérimental de François Bonnet.
France Musique, l'expérimental, François Bonnet.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette expérimentale, une expérimentale consacrée à l'actualité discographique. En compagnie de Joseph Gosne. Bonsoir Joseph.
Bonsoir François.
Comment allez-vous?
Bien et vous?
Ça va très bien, je vous remercie. Je vous propose de commencer cette émission sans plus de cérémonie avec le retour du vétéran Christian Fenez et un nouvel album sur le label Touch, album qui s'intitule Mosaïque. Le communiqué de presse ne nous apprend pas grand-chose, mis à part le fait que Fenez a travaillé dans un nouveau studio, suivant une routine quotidienne évoquant presque les horaires du bureau. Au niveau de ses sonorités, on retrouve immédiatement l'univers de Christian Fenez et on se dit que cet album, dans ses couleurs et ses atmosphères, aurait pu être composé il y a 20 ans. Cela peut sembler péjoratif de prime abord, mais en fait, et c'est cela que je trouve admirable chez Christian Fenez, c'est qu'il ne cède pas à l'injonction à se renouveler ou à écrire des histoires ou encore à se réinventer de manière ostensible. Et si ce disque aurait pu être composé il y a 20 ans, peut-être, le fait est que cet album vient juste d'être créé et qu'il est constellé de subtilités, de choix et de directions qui se sont, au fur et à mesure, agrégées pour aboutir à ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, et si on se concentre un instant sur l'album lui-même, alors on se trouve plongé dans un monde sonore fascinant, chatoyant, hypersensible et nostalgique. Un monde familier mais toujours changeant dans lequel j'ai une nouvelle fois eu le grand plaisir de me perdre. Je vous propose d'écouter le titre Heliconia, paru sur l'album Mosaïque, c'est Fenez. Thank you. Fénèse, Heliconia, paru sur l'album Mosaïque chez Touch. Joseph, à présent, vous nous proposez un groupe, un ensemble au nom énigmatique, A Large Sheet of Muscle.
Oui, alors ce n'est pas exactement un groupe, c'est un homme seul, Louis Johnston, l'anglais Louis Johnston, qu'on avait précédemment croisé sous d'autres noms, dont celui de Wanda Group.
Ah, c'est
Wanda Group qui faisait sortir des albums avec des morceaux plutôt longs, très texturés, assez ombrageux d'ailleurs. Et là, Louis Johnston a changé de pseudonyme pour faire un disque dans lequel les morceaux sont extrêmement courts. Il y a 26 morceaux sur cet album qui avoisinent les 1 minute 30, 2 minutes. Ce ne sont que des morceaux enregistrés avec son téléphone. Donc une esthétique comme ça très, très limitée. C'est presque de l'Oulipo, de l'Oubapo, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, un exercice de style très, très, très contraint. Ça donne des morceaux assez énervé, abrasif, c'est un peu bancal tout ça, mais l'ensemble se tient quand même très bien, c'est un peu colérique aussi parfois. Il paraît que Louis Johnston a aussi une double carrière sur X, sur Twitter, l'ancien Twitter, une carrière oui, de tweetos énervé apparemment. Je ne sais pas si ça se ressent là, mais en tout cas il a trouvé un nouvel usage à son téléphone qui est de non plus de d'énerver tout le monde sur Twitter, mais de faire des morceaux eux-mêmes un peu en colère. Voilà.
On va écouter un titre, Smoke Alarm Underfoot, sur l'album Dracula Completo chez Trilogy Tapes. C'est A Large Sheet of Muscle. Smoke Alarm Underfoot, paru sur l'album Dracula Completo, c'est A Large Sheet of Muscle. On va rester dans une esthétique un petit peu abrasive avec cette découverte pour moi, qui est celle de la musicienne norvégienne Stina Stjern. Stina Stjern est surtout connue apparemment dans la scène indépendante norvégienne au sein du groupe rock Super Vixen, mais ce qu'elle propose ici est tout à fait différent car c'est un disque entièrement tourné vers la manipulation de cassettes et l'esprit lo-fi, utilisant de petits synthétiseurs, travaillant sur la matière bruiteuse des lecteurs cassettes, épuisant dans des sons trouvés, des boucles approximatives, avec une inventivité et une fraîcheur bienvenue. Il y a quelques morceaux qui retournent un peu vers des incursions plus pop, avec quelques envolées vocales, Mais cela donne un contrepoint finalement assez intéressant, alliant une matière très concrète à une écriture toujours influencée par la forme chanson. C'est une belle curiosité, une belle découverte pour moi que cet album, qui vient de paraître sur le label Susanna Sonata de Susanna Wallumrod. Hein. L'album s'intitule Vivid Restored et on va écouter la pièce du même titre, c'est Stina Stjern. Vivid Peace Restored, paru sur l'album du même nom sur le label norvégien Susanna Sonata, il s'agit de Stina Stjern.
France Musique, l'expérimental, François Bonnet.
Une expérimentale consacrée à l'actualité discographique en compagnie de Joseph Gosne. Et Joseph, on reste en Norvège avec quelqu'un qu'on connaît bien par ici, Lasse Marog.
Lasse Marog, oui, ce producteur qui a une discographie tellement prolifique, très noise, mais aussi dans des esthétiques même un peu plus subtiles ou diverses, disons. Et là, ce nouvel album, je trouve à la fois très intense, très fort, très puissant, mais aussi grande subtilité, moins violent peut-être que les précédents, mais avec tout de même une grande recherche électro-acoustique comme ça, et qui m'intéresse déjà pour cet aspect-là, mais aussi pour un autre aspect que l'on trouve dans les titres. L'album s'intitule Provoke, avec un K, K-E, qui est une référence directe à ce mouvement photographique japonais de la fin des années 60 et début des années 70, qui était un mouvement assez révolutionnaire de photographes qui sont mis à utiliser l'image d'une façon très différente, beaucoup plus floue, beaucoup plus immédiate. C'est comme ça qu'on a découvert notamment Daido Moriyama, qui était un des grands tenants de ce mouvement.
Mouvement qui était aussi une revue.
Qui a aussi été une revue. Il y a eu 3 numéros de cette revue, il y a eu quelques livres. C'était un moment comme ça, une capsule assez forte, assez révolutionnaire et révoltée, et qui a beaucoup essaimé par la suite. Il y a une exposition il y a quelques années qui a tourné un peu partout dans le monde, mais qui avait démarré par le bal à Paris, un catalogue, etc. Donc c'est vraiment un moment très documenté. Donc j'imagine que Lasse Marog a dû s'immerger un peu dans cette esthétique-là.
Et parce qu'il est aussi graphiste, Lasse Marog.
Il est aussi graphiste, etc. Et même la pochette a l'air de faire référence à ce genre de paysage, etc. Mais en même temps, ce qui m'a aussi interpellé, c'est que la référence n'est pas uniquement liée à la photographie japonaise, elle est aussi liée à la photographie américaine, parce que le titre que nous allons écouter s'intitule New Topographics, qui est ce mouvement né aux États-Unis en 1975 à partir d'une exposition qui s'intitulait New Topographics, qui a donné lieu aussi à un catalogue légendaire, tout aussi légendaire que Provoke, et qui a été un moment où la photographie américaine a réinventé la façon de montrer ses paysages, de montrer son urbanité, mais aussi les grands paysages américains, avec notamment 2 grands photographes qu'on a découvert à ce moment-là, qui étaient Robert Adams et Lewis Boltz. Donc toute cette musique très architecturée de cet album s'inscrit, a l'air de s'inscrire aussi dans cette façon de regarder le monde, et je trouve ça donc doublement voire triplement intéressant, et j'imagine que si on fouille davantage, on trouvera encore d'autres références à d'autres choses dans ce disque vraiment très très riche.
Pour l'heure, on va écouter le titre New Topographics, paru sur l'album Provoke chez Small Town Super Sounds, Lasse Marog.
Thank you.
Lasse Marogue, New Topographics, paru sur l'album Provoke chez Small Town Super Sounds. À présent, Joseph, je vous propose un retour du légendaire et infatigable Alvin Curran, avec deux pièces qui paraissent sur le label australien Room 40. Et dans cet album intitulé Archaeology Archaeologia, Alvin Curran se replonge dans ses archives sonores pour créer à partir de matériaux inédits. On retrouve ici l'univers composite de Curran, mêlant enregistrements de terrain, capturant des petites scènes de vie, matières électroniques générées à l'aide de synthétiseurs comme le VCS3 ou le Serge, et des sons anecdotiques. On retrouve la grande générosité sonore de Curran, une certaine gourmandise même, je dirais, mais aussi et peut-être surtout un sens du son, de sa forme et de son déploiement qui est le propre, il me semble, de cette génération d'artistes qui savait, avec peu d'éléments mais une clarté dans les prises de décision, dans les manières d'exposer les sons et d'imprimer ces transitions, qui savait captiver l'auditeur, l'emporter dans un univers singulier et le conduire et l'attirer dans l'écoute même de l'artiste. Je vous propose d'écouter un extrait de la seconde pièce de cet album qui s'intitule Othello by Night. C'est Alvin Curran dans un album donc Archaeology Archaeologia paru chez Room 40.